Bonjour, au cours de la semaine, nous vous proposons une série de reportages et d'extraits d'émissions, sous une forme renouvelée, relatant le temps fort organisé par le Centre interculturel de documentation Originante à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de la Marche pour l'égalité et contre le racisme. Extrait de l'émission enregistrée le 28 novembre 2013 avec la participation de Leïla Arslan, docteur en sciences politiques, auteur d'Enfants d'Islam et de Marianne, des banlieues à l'université, paru aux presses universitaires de France, et de Cyril Prévost, directeur adjoint de l'association Tissé Métis.
J'ai travaillé en fait sur le rôle que pouvait avoir l'ascension sociale espérée par les études, espérée hein, parce que c'est pas parce qu'on, c'est pas parce qu'on est étudiant qu'on est assuré d'avoir quelque chose au bout. Donc, qu'est-ce que faisait cet espoir d'ascension sociale sur de l'ethnicité chez des jeunes français étudiants ayant grandi dans les quartiers populaires de la petite couronne parisienne, d'origine maghrébine, turque et africaine, posés comme musulmans, quel que soit leur rapport au religieux. Donc voilà, donc j'avais eu une hypothèse un peu provocatrice, mais c'est bien de commencer par des choses un peu provocatrices pour voir si c'est juste ou pas. En l'occurrence, je disais que finalement, les jeunes d'origine, enfin les jeunes que je traitais, donc, en raison de ce mouvement d'ascension sociale, ils pouvaient être comparés aux Irlando-Américains actuels qui vivaient une ethnicité symbolique sans coût social. Donc après un gros terrain, bah, je me suis aperçue qu'en vérité, même s'ils l'espéraient, en vérité, le regard que la société posait sur eux faisait que ils n'arrivaient pas finalement à s'arracher à cette vision assignatrice souvent stigmatisante auquel ils étaient confrontés et qu'ils n'étaient pas encore dans une sorte, ils n'étaient pas encore dans cette ethnicité symbolique. Faciliter la suite du débat. Finalement, aujourd'hui, mes deux axes de recherche, c'est un, toutes les questions d'ethnicité et d'islam dans les quartiers populaires. Deux, maintenant aussi, mes travaux portent sur la participation politique dans les quartiers. Et finalement, on peut faire des liens aussi entre les deux, comme le montre finalement la marche. Et finalement, les nouvelles mobilisations qu'il y a dans les quartiers depuis. Voilà.
Vous aviez quel âge, si c'est pas indiscret?
Moi, j'avais un an.
Un an. Donc, vous faites partie de cette génération qui, avant les études, n'avait jamais entendu parler de...
Bah, j'en avais jamais entendu... j'en avais entendu comme Marche des Beurs. Mais Marche des Beurs, ça renvoie pas forcément au même imaginaire que Marche pour l'égalité et contre le racisme. Mais comme pour ma thèse, j'ai lu un certain nombre de livres, là, pour le coup, j'étais... immergé dans le combat des acteurs au-delà de la reconstruction politique qu'il a pu se faire après.
Cyril, vous aviez quel âge?
13 ans.
13 ans.
Aïe.
Et alors ça...
Conscient,
bah, conscient déjà à 13 ans.
C'est ce que j'expliquais dans la salle tout à l'heure, c'est-à-dire que comme beaucoup d'entre nous qui avons peut-être cet âge-là, enfin de la préadolescence, adolescence, ça a été le choc, je mets entre guillemets, médiatique de cette image de ces jeunes qui étaient en marche vers Paris. Et moi, l'image que j'ai retenue, c'est une image d'actualité tout à fait banale, mais de ce groupe d'une trentaine de personnes sur une route départementale qui allait vers Paris pour revendiquer un certain nombre de choses, et notamment l'égalité pour tous, vers Paris. Et j'en ai eu conscience très jeune. Alors bien sûr, il n'y avait pas d'analyse dans ce constat, il n'y avait pas de... Voilà, c'était juste... j'ai compris qu'à ce moment-là, il se passait quelque chose d'important. Maintenant, l'expliquer, c'est plus subtil.
Vous êtes intervenu, hein, je lis le thème, hein, Beurre Beurette, jeune des banlieues, jeune musulman de France, jeune issu de la diversité, représentation, catégorisation, assignation et sentiment d'appartenance. Déjà, je commence par Beurre Beurette, je ne suis pas sûr que tout le monde soit satisfait.
Totalement, donc je revenais sur l'histoire du... c'est un jeu de mots, hein, mais j'ai parlé en fait de l'évolution du beurre cool au beurre burk, c'est-à-dire du beurre... À un moment, on s'en rappelle peut-être plus aujourd'hui, mais à un moment, il y a eu une beurre mania qui a fait que quand même, c'était vu comme quelque chose d'extrêmement positif. Mais au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure des déceptions aussi politiques liées finalement à la suite de la marche, ce beurre cool a disparu. Et aujourd'hui, quand on interroge les jeunes, un premier constat, cette mémoire de la marche n'existe pratiquement plus. De temps en temps, elle peut ressortir sous le nom Marche des Beurs, vue assez négativement. Et souvent, les gens amalgament toutes les marches en une seule, puisqu'il y a eu plusieurs marches quand même ensuite. Hein. Il y a eu 83, 84, 85, etc. Donc ça, c'est un premier constat. Et le deuxième, c'est que pour eux, le beurre, finalement, c'est un être sans culture, le cul entre deux chaises, qui est nommé beurre par l'autre, finalement, par les élites de la société majoritaire. Et il y a une forme de relation asymétrique que certains jugent paternaliste qui fait que ce beurre-là est refusé.
Il est refusé, donc il va se construire son identité.
Je dirais que les catégories qui sont utilisées sont construites dans une espèce d'interaction entre discours public et parole privée, assignation et sentiment d'appartenance. Il y a une espèce de jeu dynamique, je t'aime moi non plus. Par exemple, on voit ça autour de l'émergence de la catégorie musulman, musulman, islam. Donc c'est quelque chose qui s'est beaucoup renforcé après le 11 septembre. Souvent, quand on utilise le mot musulman, il y a quand même un certain nombre de connotations d'arrière-fond assez négatives. L'islam étant présenté comme une espèce de tout homogène, archaïque, anti-liberté d'expression, machiste. Enfin, je peux inventer. Enfin, on peut faire ressortir plein d'autres choses comme ça. Et voilà, ça c'est que ça peut être assez fort dans le discours public. Quand cette expression se veut plus neutre dans le discours public, au mieux c'est pour associer les enfants des autres, seconde génération qui n'étaient pas là en fait dans les années 80, en tout cas moins visibles parce que moins importants numériquement, les jeunes d'origine africaine, les jeunes d'origine turque par exemple. En tout cas, ça pose quand même question cette mise en avant d'une catégorie à référent religieuse dans un contexte où souvent les faits sociaux sont expliqués à travers le religieux. Si on prend l'exemple, par exemple, des émeutes de 2005, il y a eu quand même un certain nombre d'explications qui ont été avancées autour de la polygamie, par exemple, pour expliquer finalement cette explosion urbaine et le fait qu'elle se soit répandue dans de nombreux quartiers populaires français. Donc ça interroge. Moi, c'est quelque chose qui ne me met pas forcément à l'aise. Et les enquêtés, quand je les interroge, cette assignation, même si certains se disent musulmans, mais le fait que la puissance publique ou le discours médiatique les mettre dans une catégorie qui est quand même qui se construit sur des frontières assez fermées, essentialisantes, et ça leur fait un peu mal quoi. Leur façon en fait de se poser comme musulmans, ils la vivent de façon plus fluide. Donc c'est assez compliqué parce que en fait derrière un mot il y a des usages différents qui sont faits par les acteurs, qu'ils soient donc les individus que moi j'enquête, les hommes politiques, les journalistes. Du coup, on ne peut pas avoir un discours généralisant là-dessus. On peut dire juste qu'il y a des espèces de dynamiques, des tensions entre acteurs, et c'est ces dynamiques qui sont intéressantes à étudier. Et à mon sens, c'est celles-ci qu'on devrait davantage mettre en avant, parce qu'on voit un peu cette fluidité qu'il peut y avoir dans la construction des identités, et c'est ce que demandent finalement les individus. Avoir la possibilité d'être les seuls maîtres de leur définition sociale.
Ce que chacun réclame en soi.
Ce que chacun réclame, mais ce que chacun réclame. Mais c'est vrai que pour ces populations-là, il y a un discours extérieur tellement fort sur eux qui vient presque enserrer chacun des aspects de leur vie, de leurs identités multiples, familiales, territoriales. Alors, à chaque fois, il y a une identité qui est posée de l'extérieur et qui est souvent associée à des choses très négatives. Et du coup, les jeunes doivent grandir avec ça aussi.
Je donnerai la parole à Cyril, mais juste une petite parenthèse. Alors, ce n'est pas une séance de psychanalyse à 3 francs 6 sous, mais...
Comment je me définis, c'est ça là.
Surtout, vous avez dit, mais j'ai un malaise par rapport à cette question.
J'ai un malaise par rapport au fait...
Un malaise parce qu'il y a une difficulté de la recherche ou c'est quelque chose de...
Non, c'est pas au niveau de la recherche, c'est la citoyenne. Je trouve extrêmement dommage qu'on culturalise ou qu'on mette en religieux des processus sociaux. Enfin, il peut y avoir une part liée à ça, mais dire que par exemple les émeutes de 2005 ont été, comme l'ont dit les Américains, des Muslim Riots, des émeutes musulmanes, c'est quand même passé à côté de, je ne sais pas, 95% du problème, voire plus. Donc c'est quand même dommage. Parce qu'en plus, là, quand c'est le discours public qui pose les catégories, le discours public est beaucoup moins... comment dire, il n'y a plus ce jeu de fluidité, de... on pourrait faire des comparaisons avec le débat qu'il y a eu sur les statistiques ethniques. Que la puissance publique définisse machin et dans telle ou telle catégorie. Enfin, c'est quand même un petit peu problématique. Et qu'est-ce qu'on fait des métis dans ce cas-là? On est quand même une société métissée. Moi, pour le coup, je ne saurais pas où me mettre. Moi, je suis, même si ça se voit pas, je suis métisse, en fait.
Cyril, pour rebondir.
Je vais remonter le fil de ce que vient de dire Leïla en 2 minutes. On repart de métisse, du coup. Ce qui est très intéressant, et Fatima Wachour, là, qui est référente scientifique pour le CID, qui a construit cette journée, a un programme de recherche qui s'appelle MEDI avec l'Université de Nantes. J'en fais sa publicité du coup, mais c'est quand même très intéressant parce que ça touche des questions de fond. Quid de la question du mot métis et de la réalité métisse? Et nous sommes tous des métisses dans la société française, et donc le rapport à cette notion de société plurielle. Les mots d'interculturalité sont remis en cause, on réinterroge les mots classiques, j'y reviendrai après. Et moi, je trouve ça très, très intéressant qu'aujourd'hui, par exemple, les programmes de l'éducation nationale, et ça, je cite les chercheurs de l'Université de Nantes et d'autres, qui ont réussi par leur travail de recherche à influer sur les objectifs des politiques publiques, et là, on parlera spécifiquement de l'éducation nationale, en disant la référence historique aux Gaulois n'a plus lieu d'être, d'un point de vue 100%, on va dire, pour la société française. C'est impossible aujourd'hui d'avoir des classes avec la diversité, la pluralité des personnes qui sont en présence dans les classes, des jeunes en particulier, en disant « vos ancêtres, les Gaulois ». Enfin là, on ne peut plus l'accepter, c'est plus possible. Jusqu'alors, on arrivait parce qu'il y avait une imposition politique, il y avait une imposition de la force coloniale de la France, etc., qui du coup imposait, il fallait que notre diversité rentre dans une histoire commune qui n'était que partielle. C'était quand même un exercice complètement hallucinant.
Donc mais ça, c'est la précision. Un État-nation, donc on avait de la
mytho-histoire. Pour les Bretons, pour les Basques, pour évidemment pour les Catalans, etc. Donc on est dans ces problématiques-là, dans le prolongement, mais là du coup, les embranchements sont très très éloignés. C'est pas tant que ça non plus avec le Maghreb par exemple, mais avec l'Afrique subsaharienne, avec l'Asie du Sud-Est, avec la Turquie, avec tout ce qu'on veut, tout ce qui représente la diversité de la société française aujourd'hui.
Leïla Arslan, docteur en sciences politiques, auteur d'Enfants d'Islam et de Marianne, des banlieues à l'université, paru aux presses universitaires de France, et Cyril Prévost, directeur adjoint de l'association Tissé Métis, sont les invités du magazine enregistré lors de la journée d'études autour de la marche pour l'égalité et contre le racisme, organisée par le Centre interculturel de documentation Originante.
terme musulman, il préexistait, le terme musulman. Dans l'histoire coloniale française, les Français musulmans déterminaient une catégorie de Français qui était généralement, là je vais raccourcir, les Français d'Algérie. C'était les Français musulmans. Donc ce terme préexistait. Il est ressorti effectivement avec l'émergence du religieux dans les années 90 où du coup on recatégorise effectivement, comme vous le disiez Laïla, très, très justement, en disant ben voilà, t'es du Cameroun, du Sénégal, de Turquie, ou alors quand je dis tu es d'origine sous-entendu, etc., du Maghreb évidemment, t'es musulman. Et c'est vrai que le rapport au religieux est quand même complexe aujourd'hui. Il y a une émergence du religieux, c'est évident, il ne faut pas se le cacher d'un point de vue musulman. Mais en même temps, il y a tout un tas de personnes qui peuvent avoir des traces ou des liens avec la religion musulmane qui n'ont absolument pratiquement aucun lien avec le religieux en tant que tel, si ce n'est d'héritage culturel. Et je finis par beurre, qui était notre premier... voilà, effectivement, j'aime bien cette définition du beurre cool et du beurre burk. Le beurre cool, cher Michel, et là j'en appelle à l'histoire des radios libres et de ce ton gagné dans les années 80, grâce au président Mitterrand entre autres, mais surtout à la mobilisation des acteurs libres qui ont voulu s'exprimer à travers des antennes radiophoniques, et est née dans les années 80 aussi cette fameuse radio beurre, qui était extrêmement positive dans son acception, dans sa définition. C'est-à-dire, on donnait là aussi la parole à des enfants, d'immigrés, essentiellement du Maghreb, mais pas seulement. La radio beurre était une radio extrêmement mixte dans les prises de parole, etc. Et là, on était dans le positif. Alors, beurre, effectivement, c'est arabe, robeu, beurre. Hein, donc, il y a un double verlan qui se. Alors, moi, j'ai un souvenir de beurre cool. Mais maintenant, c'est Burberk, c'est vrai.
Vous n'avez pas levé le doigt, non ?
Oui, c'était pour revenir sur les Gaulois dont on parlait. Ce qui est c'est pour appuyer votre point de vue. Mais ce qui est drôle, entre guillemets, en plus dans cette volonté de revenir sans arrêt aux Gaulois, c'est que cette vision du Gaulois qu'on a, enfin, n'existe pas en fait d'un point de vue historique. C'est une projection de la Gaule comme France État-nation qui n'a pas existé. Donc voilà, c'est faux en plus.
Ce que j'aime bien, c'est provoquer des échanges. Alors, on n'a pas eu le temps de se présenter. Bonjour.
Je m'appelle Astel. C'est marrant parce que j'ai appris à marcher à l'époque de la marche. Donc je pense qu'on est toute une génération finalement. Voilà, je pense qu'il faut aussi encore actuellement 30 ans après réapprendre à marcher ensemble dans ce sujet qui est quand même sacrément d'actualité. Je reviens sur le mot de beurre. Alors moi, depuis que je suis né, on aime bien mettre des étiquettes, hein, généralement. On m'appelait beurre. Alors moi, ça me faisait toujours rigoler. Je me disais que suite à cette intégration, un qui se vit, j'ai toujours répondu que j'étais une margarine. Je pense être un beurre allégé, hein, car je suis métisse, mon papa est venu du Maroc, ma maman est française depuis plusieurs générations, je vais dire. Voilà, donc non, je pense que l'intégration, ça passe au-delà de simplement étiqueter les gens avec des mots, c'est principalement vivre sa citoyenneté et marcher, voilà, donc les uns avec les autres, les uns à côté des autres, pas un devant et pas un derrière. On est ensemble. Voilà ce que je.
Et qu'est-ce que vous entendez par vivre sa citoyenneté ?
Vivre sa citoyenneté, c'est être autonome, pouvoir vivre sa liberté d'action, de création. On peut parler d'Europe également. Bon, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Je reviens justement sur le sujet qui nous lie tous aujourd'hui. C'est 30 ans après la marche. Vivre sa citoyenneté, c'est parler des sujets actuels. Alors, on parle beaucoup du racisme en ce moment. Je pense qu'il est peut-être bon de redéfinir ce terme, ou en tout cas d'essayer de le comprendre. C'est un fourre-tout. Aujourd'hui, on l'utilise un peu au bon vouloir de chacun. On l'utilise, le mot, c'est clairement. Je pense qu'il faudrait dépasser ce terme aujourd'hui, 30 ans après la marche, et clairement revenir sur les principes d'égalité. Je laisse à chacun le soin de soit d'ouvrir un dictionnaire ou d'en discuter avec son voisin. Je pense que ça commence comme ça. Je laisse à chacun le soin soit d'ouvrir un dictionnaire ou d'en discuter avec son voisin. Je pense que ça commence comme ça.
Bon, passez le micro à votre voisine alors.
Juste, je vais rebondir sur le terme de beurre également. Juste dire que c'est un terme que je vomis. Parce que je suis moi-même d'origine marocaine par mes deux parents. Et c'est un terme que depuis toujours, en fait, j'ai toujours vomi, en fait. J'ai jamais aimé ce terme. Et donc, moi, j'ai toujours été burk, toujours. Ensuite, moi, ce qui m'a intéressé par rapport à la journée d'études, en tout cas par rapport à ce matin, c'était justement la question du poids des mots. Et ce dont Leïla parlait, ça m'a intéressé. Et également, ce qui a été abordé, c'est la perception de l'autre, qui est une question qui m'intéresse beaucoup. Et aussi la représentation de l'autre, notamment à travers l'intervention de deux historiens, Yvan Gasto. Voilà, donc moi, c'est ce qui m'interroge, en fait. J'ai l'impression que c'est une éternelle interrogation qui va revenir. Et voilà, donc il y a des personnes comme Leïla, des chercheurs qui ont des solutions et qui sont malheureusement difficilement applicables sur le terrain social, politique. Et voilà, je pense que ce serait une des bonnes solutions, en tout cas aujourd'hui. Voilà.
Vous avez des solutions inapplicables ? Lesquelles sont-elles ?
Non, j'ai plutôt des questions et des questions sur le cadre de questionnement, si je puis dire, dans lequel le débat public se pose. Mais justement, poser des questions sur les questions, ça peut être pas mal parce que ça peut remettre les choses à plat et permettre de reprendre le débat du bon pied.
Je crois que ces questionnements-là, et je me permets, Michel, excusez-moi.
Mais non, c'est le jeu.
C'est important. De matérialiser l'application d'une pensée, c'est toujours un peu compliqué. Par contre, et c'est ça où c'est intéressant dans notre action, et je pense que c'est une tendance qui n'avait pas lieu il y a 20 ans. Où il y a 20 ans, c'était très cloisonné entre le monde universitaire, les gens qui activaient sur le terrain, la population lambda qui avait des choses à dire, à exprimer. C'était relativement cloisonné, même s'il y a toujours eu des ponts. L'histoire... peut le dire aussi, les actions de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir, etc., étaient des penseurs qui étaient en action. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on a besoin de croiser Leïla, qui travaille en tant que, sur le secteur des sciences politiques, sur ces interrogations-là, et nous, alors là, je nous nomme acteurs de terrain, y compris Michel l'alternante, et nous, dans notre collectif à Tissé Métis, on est tout le temps dans l'action, en rapport avec les habitants des quartiers populaires, etc., où on discute, on produit des choses, mais on est en action. Et on a besoin, les uns et les autres, de prendre du recul à chaque fois. On a besoin d'entendre les discours émergents des chercheurs plutôt jeunes, qui posent des problématiques. Et nous, en tant qu'acteurs de terrain, il faut qu'on soit entendu dans nos actions. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que vous produisez réellement? Et si on arrive à se croiser, etc., on va s'inspirer les uns des autres. Et donc, du coup, c'est ça, l'application de la pensée et des concepts. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas dire quand j'ai un projet au sein de Tissé Métis, je dis, je vais conceptualiser. Non, il y a un projet, on l'écrit, mais il est inspiré de rencontres, comme avec Leïla ou avec d'autres chercheurs. Et du coup, nous, en tant qu'acteurs de terrain, on réinstille ces idées-là, en les partageant avec des gens qui sont plus à distance. Les habitants des quartiers populaires sont loin d'être des ânes, et en même temps, ils peuvent être pris par le quotidien, qui est parfois un peu difficile, etc. Et du coup, on partage avec eux des discours, mais surtout des actions. Et c'est là où le tronc commun, il vient à ce moment-là, du moment où on arrive à rentrer en dialogue entre chercheurs, acteurs de terrain, les politiques, évidemment. Et si tout ce monde-là est à l'écoute, les choses avancent, elles ont avancé depuis 30 ans. La marche continue. Vous avez complètement. Enfin, elle est très belle votre expression de reprendre à marcher ensemble. Mais en fait, on est dans cette continuité-là. Alors parfois, on marche lentement parce qu'on a mal aux pieds, parce que la marche crée des ampoules. Et en même temps, pour ceux qui connaissent la marche, il y a des moments où on est dans un rythme énorme, quoi. On peut faire 50 km de suite sans aucun problème. Donc voilà, cette métaphore-là...
Mais parfois, on nous fait marcher. On nous laisse croire...
Voilà. L'esprit Michel Surgé d'alternante, les auditeurs et auditrices...
Non, mais on n'est pas là pour faire...
Mais effectivement, on nous fait marcher aussi.
Parce qu'on interpelle le politique.
On nous pousse dans le dos, mais aussi on nous tire, Michel. Enfin, et voilà. Mais c'est les uns et les autres. C'est cette interaction, interactivité. entre les acteurs associatifs, les chercheurs, le politique, etc. Quand on est en marche intelligente, parfois on a besoin de sentir quelqu'un qui nous pousse. Alors, il y en a qui font des croche-pieds aussi, c'est clair.
Géraldine ?
J'écoutais en fait ce que tu disais, Laïla, tout à l'heure, et je me demande, en fait, tu parlais de la participation politique dans les quartiers. Mais comment concrètement tout ça peut s'articuler ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en mouvement autre que ce qu'on a connu et qui continue à stigmatiser
Alors, donc là, je prends ma deuxième casquette, deuxième axe de recherche. J'ai travaillé particulièrement sur les notions d'empowerment, tout community organizing, et ça, c'est des choses qui, pour tous ceux qui travaillent sur les quartiers, c'est un peu la tarte à la crème maintenant pour comment est-ce qu'on remobilise les quartiers populaires. Moi, j'avais fait une enquête qui... Enfin, pas une enquête, c'était plutôt une revue de la littérature, donc sur ces phénomènes qui viennent déjà du monde anglo-saxon. Et j'avais regardé... je m'étais questionnée sur qu'est-ce qui pourrait ou pas les bloquer en France. Je crois beaucoup en fait à la construction du politique par le bas à partir du quotidien des habitants par rapport à un ensemble de mobilisations qui sont jugées en général comme n'étant pas politiques mais qui pour moi le sont totalement. Typiquement, comment remobiliser les gens, comment réimpulser des amicales de locataires. Ça peut sembler basique, mais...
Une action et
Mais au-delà de ça, on se rend compte que par rapport à un certain nombre, par exemple, quand on parle des grands ensembles, le problème d'un certain nombre d'entre eux, qu'ils relèvent du HLM ou de la copropriété, sont dus en fait à un manque de gouvernance des habitants à l'intérieur de ces ensembles. Qu'est-ce que ça provoque ? Ça fait que les ascenseurs en panne ne sont pas réparés, il y a des dégradations des espaces collectifs, il peut y avoir des occupations de halls, soit par des jeunes, soit par des dealers. Ça peut être un peu compliqué. Et en fait, on se rend compte que quand on arrive à réimpulser des collectifs d'habitants, déjà, il y a toute la question des charges indues. Donc souvent, là, les gens, ils vont peut-être se mobiliser un peu par rapport à ça. Donc ça peut être, moi, je pense par exemple à l'association de l'amicale des locataires des Beaudottes à Sevran. Mais toujours à Sevran, il y avait l'amicale des locataires. Alors, je ne sais pas, c'est des propriétaires. Enfin, une amicale de copro à la cité des Marguerites. Donc, pour les Beaudottes, c'est considéré comme une des cités de Sevran, où il y a le plus gros trafic de drogue d'Île-de-France. Ils font, c'est même plus du particulier à particulier, c'est du semi-gros. Enfin, si Édouard Zambeau avait fait une bonne émission là-dessus et il disait, ça c'était les chiffres des Marguerites, que par jour il y avait presque 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on se rend compte un peu de ce que ça peut, des enjeux qu'il y a là et surtout des soucis que ça peut causer aux habitants. Et donc pour les Beaudottes, donc dans ce contexte un peu général de complications, il y avait des habitants qui étaient sollicités par d'autres habitants pour essayer de mieux comprendre les charges et tout comment ça fonctionne. Et ils en ont eu marre en fait de faire ça au niveau individuel. Ils se sont dit mettons-nous en collectif. Et ils ont commencé à faire un tout petit combat, micro-combat sur une histoire de charges autour d'une antenne télé qui servait plus à rien et pourtant. Mais le truc, c'est qu'ils ont une victoire. Et petite victoire après petite victoire, le collectif, il arrive à construire une crédibilité sur leur local, à diffuser de la confiance. Et à partir de là, on peut inventer plein de choses. Ça peut être aussi bien organiser des réseaux de solidarité pour faire les courses pour les plus vieux que faire de l'occupation des halls. Alors en général, ces mobilisations-là sont considérées comme ne relevant pas du politique. Mais pour moi, c'est éminemment politique parce qu'on parle là de la vie en commun.
C'est du concret.
Voilà, c'est la vie de la cité. Dans les deux sens du terme.
Merci à Leïla Arslan, docteure en sciences politiques, auteure d'Enfants d'Islam et de Marianne, des banlieues à l'université, paru aux presses universitaires de France, à Cyril Prévost, directeur adjoint de l'association Tissé Métis, et à l'auditeur Spontané, pour leur libre participation à cette émission, enregistrée avec les complicités de Géraldine Lamant et de Salima Kettar, lors de la journée d'études, autour de la marche pour l'égalité et contre le racisme, organisée par le Centre interculturel de documentation Originante.
Merci.